Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 11 novembre 2024. En direct de Washington, Rosine Monedero. Pour commencer, les titres. Le Premier ministre Mauricien sortant Pravind Kumar Jonath reconnaît sa défaite aux législatives de dimanche. Le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite a appelé lundi au cessez-le-feu à Gaza et au Liban à l'ouverture du sommet de la Ligue arabe à Riyad. Le conseil présidentiel de transition d'Haïti a décidé de limoger le Premier ministre en place depuis seulement 5 mois. Et dans notre partie magazine, les Ukrainiens se préparent à des changements potentiels dans la politique américaine avec le retour de l'ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche.
Nous pensons que l'un des plus grands moments de l'histoire commence maintenant. Nous pensons que c'est formidable.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Premier ministre sortant de l'île Maurice, Pravind Kumar Jonath, concède sa défaite aux législatives. Les résultats partiels à la mi-journée annoncent une victoire de l'Alliance du changement menée par Navin Ramgoolam, chef du parti travailliste et ancien Premier ministre. Le point avec Alexandrine Holognon.
Nous allons vers une défaite. La population a choisi une autre équipe. Je lui souhaite bonne chance, a déclaré à la presse Pravind Kumar Jonath. Selon le Premier ministre sortant, l'Alliance du changement, dirigée par Navin Ramgoolam, un vétéran de la politique âgé de 77 ans, était en passe de remporter le scrutin. Les électeurs se sont rendus aux urnes pour élire les législateurs qui occuperont les 62 sièges du Parlement pour les 5 prochaines années. Un total de 891 candidats sont en lice. 8 sièges sont alloués par la Commission de surveillance électorale pour assurer l'équilibre dans la représentation communautaire. Le parti ou la coalition qui obtient plus de la moitié des sièges au Parlement remporte également le poste de Premier ministre. Le taux de participation s'est élevé à 79,3% sur un peu plus d'un million d'électeurs inscrits, selon les données de la Commission électorale. Les résultats définitifs sont attendus dans la journée.
La justice malienne a de nouveau maintenu en détention lundi un universitaire auteur d'un livre critiquant les militaires au pouvoir après avoir renvoyé son procès en appel. Étienne Fakaba Sissoko, l'une des rares voix critiques du pouvoir qui tente encore de se faire entendre de l'intérieur du pays, est détenu depuis fin mars et a été condamné en mai à 2 ans de prison, dont un ferme. Son procès en appel devait s'ouvrir lundi et il était présent avec son avocat. Mais la cour d'appel a renvoyé le dossier au 2 décembre pour vice de procédure et a maintenu M. Sissoko en prison. Au Burkina Faso, une enquête a été ouverte après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de mutilation d'un corps humain par des individus vêtus de tenues militaires des forces armées nationales, a indiqué l'état-major dimanche dans un communiqué. En juillet, l'armée burkinabé avait condamné des actes de mutilation de cadavres vus dans des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux perpétrées par des personnes soupçonnées d'être des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, supplétif civil. En Tunisie, l'ancien candidat à la présidentielle du 6 octobre, Hayati Zamel, s'est vu infliger une nouvelle condamnation de 32 mois de prison. Ceci porte à 35 ans d'emprisonnement le total des peines prononcées à son encontre, a indiqué lundi son avocat. Une nouvelle peine majorant de 2 ans et 8 mois les condamnations à son encontre a été décidée par le tribunal de Manouba, près de Tunis, pour des accusations de fausses signatures lors du dépôt de sa candidature, a précisé son avocat. M. Zamel, totalement inconnu du grand public, n'a pas pu faire campagne car il est en prison depuis la confirmation de sa candidature le 2 septembre. La 29e conférence sur le climat de l'ONU s'est ouverte ce lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. Le principal enjeu est de trouver un compromis sur les montants d'aide financière et à destination des pays les plus pauvres et vulnérables au changement climatique. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le bras de fer central est de négocier le montant de l'aide financière des pays développés aux pays en développement pour qu'il se développe sans énergie fossile et s'adapte aux effets d'un climat plus extrême. Aujourd'hui, de 116 milliards de dollars par an, le nouvel engagement doit être en milliers de milliards annuels, réclament les pays pauvres. Mais les Occidentaux jugent cet ordre de grandeur irréaliste pour leurs finances publiques. Le président de la COP29, le dirigeant azerbaïdjanais Mukhtar Baybayev, a évoqué des centaines de milliards, mais aucun négociateur n'a dévoilé ses cartes officiellement. Cette COP29 se tient 6 jours après la réélection de Donald Trump aux États-Unis, première puissance mondiale et deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre. Les États-Unis pourraient prochainement quitter l'accord phare sur le climat de Paris en 2015, une fois que Trump sera entré à la Maison-Blanche le 20 janvier. Ce retrait prévu des États-Unis rend d'autant plus difficile l'atteinte d'un consensus à Bakou d'ici la fin de la conférence le 22 novembre.
15 militaires tchadiens ont été tués lors d'un accrochage qui a fait également 32 blessés samedi entre l'armée et des djihadistes de Boko Haram, a indiqué dimanche l'état-major dans un communiqué. Samedi, l'état-major avait annoncé que plusieurs éléments terroristes avaient été neutralisés et promis un bilan ultérieur. En Côte d'Ivoire, 20 personnes sont mortes dimanche soir dans la collision de 2 mini-cars dans le centre du pays, a-t-on appris lundi auprès des services de la protection civile. L'accident s'est produit de nuit vers 19h30 local et l'opération de secours des pompiers de la région est terminée selon l'ONPC. Entre 1000 et 1500 personnes sont tuées en moyenne chaque année sur les routes de Côte d'Ivoire, selon le ministère des Transports, pour 1,5 million de véhicules en circulation.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ouverture sur lundi du sommet de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique à Riyad. Le prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, a déclaré que Israël devait respecter la souveraineté territoriale de la République islamique d'Iran et s'abstenir d'attaquer son territoire. Le point avec Eric Manilakid.
Mohamed Ben Salman a qualifié l'Iran de république sœur, signe du réchauffement des relations entre les deux pays qui ont mis fin en mars 2023 à 7 ans de brouilles diplomatiques grâce à un rapprochement négocié sous l'égide de la Chine. Les liens restaurés entre Riyad et Téhéran ont redéfini le paysage diplomatique. Les deux pays ont multiplié les contacts depuis le déclenchement en octobre 2023 de la guerre à Gaza. Dimanche, la presse d'État iranienne a annoncé que le chef d'état-major de l'armée saoudienne avait rencontré des responsables iraniens à Téhéran à l'occasion d'une rare visite d'un militaire saoudien de haut rang en Iran. Israël est en guerre contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza et le Hezbollah au Liban, deux mouvements islamistes alliés de l'Iran. Les frappes de l'armée israélienne en octobre qui ont visé des sites militaires en Iran ont été menées en réponse à des tirs de missiles iraniens sur son sol le 1er octobre. Téhéran avait indiqué que ces tirs étaient une réponse à l'assassinat de dirigeants du Hezbollah et du Hamas. Par ailleurs, la résistance islamique en Irak, coalition de groupes armés pro-iraniens, a revendiqué 4 attaques de drones successives menées tôt ce lundi contre des cibles essentielles dans le nord et le sud d'Israël.
Le président français Emmanuel Macron va recevoir mardi à l'Élysée le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, sur fond de menaces de désengagement des États-Unis de l'Alliance Atlantique et d'un arrêt du soutien américain à l'Ukraine après la réélection de Donald Trump. Il s'agit de la première rencontre entre le président français et le néerlandais depuis qu'il a pris ses fonctions à la tête de l'OTAN le 1er octobre. Pendant la campagne pour la présidentielle américaine, Donald Trump a multiplié les menaces de désengagement de l'Alliance Atlantique, dont les États-Unis sont le principal contributeur. Le Conseil présidentiel de transition d'Haïti a décidé de limoger le Premier ministre en place depuis seulement 5 mois, selon le journal officiel publié lundi. Nommé dans l'espoir de stabiliser un pays en proie à une violence croissante des gangs, Kony est remplacé par l'homme d'affaires Alix Didier, fils aimé. Davantage avec Nani Tanani.
La décision de démettre le Premier ministre de ses fonctions intervient après des semaines de conflits entre le Conseil de transition et lui. Le Conseil souhaite échanger les responsables des ministères de la Justice, des Finances, de la Défense et de la Santé contre l'avis du Premier ministre. Ce dernier arguant que ces changements étaient contraires à la loi et nuisaient à la stabilité du gouvernement. Gary Conille assure que la résolution du Conseil présidentiel de transition est clairement entachée d'illégalité. Il avait été nommé début juin pour tenter de stabiliser le pays qui ne cesse de s'enfoncer dans le chaos, notamment en raison de la violence des gangs. Il sera remplacé par l'homme d'affaires Alex Didier Fils-Aimé, médecin de 58 ans qui fut déjà Premier ministre d'Haïti pendant 6 mois entre 2011 et 2012. Gary Conille avait été désigné par ce Conseil présidentiel de transition, un organe temporaire chargé d'exercer le pouvoir exécutif après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021.
À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
La Guinée-Bissau a adopté la technologie de la chaîne de blocs afin d'améliorer la gestion de la masse salariale de son secteur public. La plateforme fonctionne grâce à un registre numérique sécurisé qui permet de suivre en temps réel les dépenses de salaire et de retraite, d'assurer leur conformité et de générer des rapports financiers fiables. Soutenue par le FMI, l'initiative détecte également les incohérences et les fraudes potentielles en alertant les autorités en cas d'écart dans les données salariales. Le vice-président du Botswana, Ndaba Gaolate, a été nommé ministre des Finances par le nouveau président Duma Boko. Sa priorité sera de relancer une économie en difficulté avec une croissance prévue de seulement 1% cette année en raison de la baisse de production de diamants d'après les prévisions du FMI. Le président Duma Boko a souligné la gravité de la situation économique et financière désastreuse, déclarant que Ndaba Gaolate devra naviguer dans des conditions financières difficiles. Pour terminer, la société sud-africaine Omia Holding a annoncé une augmentation de 2% de son bénéfice semestriel grâce à la croissance de son segment de services de dynamitage minier. Ce dernier a compensé l'impact de la sécheresse causée par El Niño sur son activité d'engrais.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
En football, le chemin qui mène vers la prochaine CAN 2025 prend fin dans une dizaine de jours.
Oui, avec les deux derniers matchs des éliminatoires et le sélectionneur du Cameroun, Marc Brice, a dévoilé hier dimanche sa liste de 26 joueurs pour affronter la Namibie et le Zimbabwe, bien que les Lions Indomptables soient déjà qualifiés pour la phase finale de cette CAN 2025. Le technicien belge est revenu en conférence de presse sur la mise à l'écart de son premier assistant Joachim Mununga, qui ne figurait pas sur les feuilles de match. Une situation, on se rappelle, qu'il avait obligé à menacer de démissionner.
Alors, on travaille maintenant avec Fekafoot ensemble. Je ne pense pas que ça peut arriver. Si encore ça va arriver, ça veut dire que la collaboration qu'on a avec Fekafoot n'est pas bien. Alors, je n'ai pas de doute que Joachim va être à côté de moi.
Marc Brice, sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, au micro de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julentap.
Sur le terrain, la suite de la première journée de la Ligue des champions féminines de la CAF au Maroc.
Mauvais départ pour l'équipe championne en titre, les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, battue 1-0 par les Égyptiennes de FC Massa. Belle entame en revanche des Nigérianes d'Edo Queens qui ont pris en même temps la tête du groupe A grâce à leur succès 3-0 sur les Éthiopiennes de Commercial Bank. Même score en faveur du club Haute Aïsfa du Maroc qui a dominé 3-0 les Sénégalaises des Aigles de la Médina. Les filles militaires de Rabat partagent la tête de la poule B avec les Congolaises du tout-puissant Mazembe, tombeuses 2-0 des Sud-Africaines de Cape University of Western.
Et enfin, ici en NBA, c'était un dimanche de gala pour les stars de la NBA.
Les Warriors ont réussi un début de saison étincelant à l'image de leur 8e victoire en 10 matchs sur le parquet d'Oklahoma City, battu 116 à 127 grâce notamment à leur meneur Stephen Curry, 36 ans et hauteur de 36 points. Et puis un double-double délicieux, 31 points et 12 rebonds de Jason Tatum. Et les Celtics continuent de s'accrocher à la faveur de leur 9e succès contre Milwaukee, 113 à 107. Une autre star de la NBA, Gianni Antetokounmpo, a aussi répondu présent pour les Bucks avec 43 points marqués et 13 rebonds. À Denver, c'est Michael Porter Jr. qui a offert la victoire aux Nuggets à 6 secondes du buzzer face aux Dallas Mavericks, 122-120. Mais le triple MVP Nikola Jokic a encore réussi un triple-double avec 37 points, 18 rebonds et 15 passes décisives. Triple-double aussi pour King James, qui s'approche sûrement mais joyeusement de ses 40 ans le 30 décembre. LeBron a non seulement marqué 19 points et pris 10 rebonds, mais il a aussi battu son record de passes décisives cette saison, 16 en l'occurrence, lors de la victoire des Lakers à Toronto, 123-103.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La COP29, la 29e conférence climatique de l'ONU, s'est ouverte ce lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. Les appels à la coopération se poursuivent. L'émissaire américain du président Joe Biden assure au monde que les États-Unis n'abandonneront pas la lutte contre le changement climatique malgré l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
La COP29 constitue un moment de vérité pour l'accord de Paris de 2015. C'est par cette déclaration que le président azerbaïdjanais de la 29e conférence climat de l'ONU, Mukhtar Baybayev, a ouvert les débats.
Colleagues, we are on the road to ruin.
Chers collègues, nous sommes sur le chemin de la ruine. Et il ne s'agit pas de problèmes futurs. Le changement climatique est déjà là.
From flooded homes in Spain.
Des maisons inondées en Espagne, aux incendies de forêt en Australie, de la montée des océans dans le Pacifique aux plaines arides d'Afrique de l'Est. Que vous les voyez ou non, des gens souffrent dans l'ombre. Ils meurent dans l'obscurité.
L'enjeu principal de cette COP29 est de fixer le montant de l'aide climatique des États développés pour les pays en développement, pour qu'ils puissent se développer sans charbon ni pétrole et affronter plus de canicules et d'inondations. Aujourd'hui, de 116 milliards de dollars par an, l'aide climatique future doit s'exprimer en milliers de milliards annuels, réclament les pays en développement. Les Occidentaux jugent ces demandes irréalistes pour leurs finances publiques. Autre incertitude, l'entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025 de Donald Trump, qui pourrait de nouveau sortir les États-Unis de l'accord adopté à Paris en 2015. Il l'avait déjà fait en 2017, avant que son successeur Joe Biden ne les réintègre en 2021. John Podesta, émissaire américain du président démocrate sortant à la COP29, assure que les États-Unis ne vont pas abandonner la lutte contre le changement climatique malgré la réélection de Donald Trump.
Même si le gouvernement fédéral américain sous Donald Trump met en pause l'action climatique, le travail pour contenir le changement climatique se poursuivra aux États-Unis avec engagement, passion et foi.
L'accord de Paris de 2015 sur le climat doit permettre d'infléchir la trajectoire des réchauffements mondiaux depuis 10 ans aux alentours de 3 degrés Celsius ou moins d'ici 2100 selon les calculs. Le texte engage le monde à limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement et à poursuivre les efforts pour le contenir à 1,5 degrés Celsius. Mais ces ambitions sont en grand danger selon la secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale, Céleste Saulo.
Nous ne renoncerons certainement pas au 1,5 degré, ce n'est pas possible, tout simplement pas possible. Et nous avons la responsabilité de maintenir cet objectif en tête de notre agenda, car nous ne pouvons pas bouger tout le temps. Nous devons ajuster et ne pas repousser les limites.
Environ 51 000 participants sont accrédités pour cette COP29, selon l'ONU Climat, moins que lors de la COP28 de Dubaï l'an dernier. Nombre d'ONG critiquent la tenue de la conférence en Azerbaïdjan, dans un pays qui célèbre le pétrole comme un cadeau de Dieu et où les autorités ont arrêté et poursuivent plusieurs militants environnementaux. La COP29 va durer jusqu'au 22 novembre.
Au Gabon, l'heure est à la campagne pour le référendum constitutionnel du 16 novembre. Un scrutin test avant la présidentielle d'août 2025, date à laquelle les militaires auteurs du putsch contre le régime d'Ali Bongo avaient promis de rendre le pouvoir à un régime civil. Dans un bref discours à la nation, le président de transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a appelé à un vote massif des populations pour faire échec à l'abstention. Les partisans du oui et du non au texte disposent désormais de moins d'une semaine pour convaincre les indécis. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Os Ismaël Obiangze.
Depuis plusieurs semaines, Libreville est inondée de panneaux publicitaires incitant les populations à une participation massive au référendum. Une campagne électorale intensifiée sur le terrain par une propagande des associations favorables au projet de nouvelle constitution. Jeff Obamezu, leader de la plateforme Éveille-toi Gabon.
Nous sommes appelés à décider d'un nouveau Gabon. Donc, il n'est plus question pour nous de rester dans nos tours d'ivoire. C'est une invite nationale. Nous devons nous battre pour que le oui l'emporte à 95%.
Malgré les actions de sensibilisation en faveur du nouveau texte, Abdoul Kader a encore du mal à se décider. Il est étudiant au département des sciences de l'information et de la communication à l'université Omar Bongo de Libreville.
Je dis que les choses sont allées un peu trop vite. Il y a des articles qui sont naturellement à revoir. Il y a certains sont intangibles. Les qu'on prenne un peu beaucoup plus de temps pour épiloguer là-dessus et je crois que la sanction serait de mise.
Donc vous allez vous abstenir?
Effectivement.
Pour plusieurs observateurs, l'abstention reste la grande inconnue de ce référendum du 16 novembre. Étudiant lui aussi, Wendin Asoko dit non à la nouvelle constitution.
Il y a des points qui me reviennent qui ne me plaisent pas. Donc, le mandat à 7 ans du président de la République, pour moi, on a un très bon exemple qui est les États-Unis d'Amérique, qui est un grand pays mondialement qui a un mandat de 4 ans. Ce n'est pas parce qu'on a 4 ans de mandat qu'on ne peut pas réaliser. Lorsqu'on veut réaliser, ce n'est pas avoir beaucoup de temps, mais c'est avoir la volonté.
Afin de comprendre la guerre de posture autour de la loi fondamentale soumise à référendum au Gabon, nous avons posé la question à Lysiane Neyer. Elle est analyste politique.
Si nous prenons le cas de la Cour constitutionnelle, nous avons d'abord eu un communiqué du CTRI qui appelait à la dissolution de celle-ci. Ensuite, un rétro-pédalage pour pouvoir aboutir à une prestation de serment du président de la transition. Et ensuite, la nomination d'un nouveau bureau de la Cour constitutionnelle. Sauf qu'à ce jour, nous n'avons pas eu un rapport de cette entité nous disant voilà ce qui a amené à ce que cette Cour constitutionnelle soit finalement une tour de Pise.
Étape clé du processus de transition en cours au Gabon. Le référendum constitutionnel de cette fin de semaine constitue un défi majeur pour le comité militaire au pouvoir à Libreville avant la présidentielle d'août 2025. Ismaël Obiangze pour VOA Afrique, Libreville.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression,
l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Le Qatar interrompt les négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, invoquant le manque de volonté et de sérieux des belligérants. Pendant ce temps, Israël intensifie ses frappes contre des cibles du Hamas à Gaza et du Hezbollah au Liban. Le reportage d'Arash Ararbassadi de la VOA, récit Gabi Dorsil.
Un hélicoptère au-dessus, une explosion dans la cour de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, dans le centre de la bande de Gaza. Israël poursuit sa campagne de guerre contre les cibles du Hamas dans la région. Les autorités locales affirment qu'au moins 3 personnes sont mortes dans cette attaque. Dans la ville de Khan Younis, les autorités médicales palestiniennes ont déclaré qu'au moins 13 personnes sont mortes dans les frappes aériennes israéliennes tôt samedi. Un journaliste de la Société de presse à l'hôpital Nasser a compté les corps. La poursuite des violences a incité les responsables qataris, qui servent de médiateurs clés entre Israël et le Hamas, à annoncer une pause dans les efforts visant à négocier un accord de cessez-le-feu. Dans un communiqué publié sur les médias sociaux, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que les efforts pour négocier un tel accord reprendraient lorsqu'Israël et le Hamas montreraient leur volonté et leur sérieux pour mettre fin à la guerre. Pendant ce temps, à Tel Aviv, en Israël, des milliers de manifestants sont retournés dans les rues pour demander à leur gouvernement de conclure un cessez-le-feu avec le Hamas afin de libérer les otages toujours détenus plus de 13 mois après les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël qui ont déclenché le conflit. Le manifestant Eyal Tiskim parle avec la société de presse.
Nous avons entendu la voix du peuple. Je suis ici parce que la situation est terrible. Cela fait 400 jours et les otages sont toujours à Gaza. Il y a une guerre sans direction. C'est vraiment triste. C'est une grande tragédie et le gouvernement doit écouter le peuple. C'est notre façon de protester.
Tout en attaquant simultanément des cibles à Gaza, Israël a également lancé des frappes sur des parties de son voisin du nord, le Liban. Israël dit viser les membres du Hezbollah, un groupe terroriste soutenu par l'Iran et identifié comme tel par l'Occident. Comme à Gaza, certaines parties du Liban ne sont plus que poussière et décombres, du métal tordu. Les sauveteurs creusent à main nue dans les rochers. Les autorités libanaises affirment que des dizaines de personnes sont mortes dans les attaques, certaines nécessitant des tests ADN pour identifier leurs dépouilles. D'autres manifestations et grèves ont lieu sur fond de violence à Amsterdam. Les autorités néerlandaises ont déclaré que des jeunes avaient attaqué des supporters israéliens après un match de football. Les autorités ont déclaré que des messages sur les réseaux sociaux appelaient à s'en prendre aux Juifs et ont mis fin à toutes les manifestations pour le week-end. Certains supporters israéliens auraient arraché un drapeau palestinien de bâtiment et scandé des slogans anti-arabes en se rendant au stade.
Avec le retour de l'ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche, les Ukrainiens se préparent à des changements potentiels dans la politique américaine qui pourraient remodeler leur lutte pour la survie face à l'agression russe. Le programme de M. Trump pourrait prendre un tournant radical par rapport au soutien indéfectible de l'administration Biden, ce qui pourrait menacer l'aide vitale des États-Unis. Reportage de Miroslava Gongaz et récit Claire Morin-Gibourg.
Lorsque la nouvelle de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle a atteint l'Ukraine, le Trump Coffee Bar, situé dans le centre de Kiev, a offert des boissons gratuites à ses clients. Roman Kravtsov, le directeur artistique de cette entreprise, créée il y a 5 ans, est heureux du choix des Américains pour la présidence.
Nous pensons que l'un des plus grands moments de l'histoire commence maintenant. Nous pensons que c'est formidable.
Mais tous les Ukrainiens ne partagent pas son enthousiasme. Certains s'attendent à des changements dans la politique américaine. Le chercheur au Centre d'analyse des politiques européennes, Mark Voiger, témoigne de l'inquiétude générale.
Trump pourrait en fait décider de faire pression sur l'Ukraine en retenant le soutien militaire, financier, diplomatique, politique et autres dont elle a tant besoin afin de pouvoir montrer à ses partisans comme une sorte de paix.
Selon Mark Voiger, la Russie profiterait de l'occasion pour faire une pause, se regrouper et attaquer de nouveau. Selon lui, la promesse de Trump de mettre fin à la guerre suggère qu'il pourrait pousser l'Ukraine et la Russie à la table des négociations.
La seule façon dont Trump pourrait potentiellement arrêter la guerre est, malheureusement, s'il fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle arrête les combats, accepte le cessez-le-feu et pour qu'elle concède et abandonne les territoires occupés selon les conditions de la Russie.
L'ancien ministre ukrainien des infrastructures devenu soldat, Volodymyr Omelian, estime que les intentions de Trump sont sincères mais irréalistes.
Je pense que Trump est honnête lorsqu'il affirme qu'il mettra fin à toutes les guerres. Je voudrais seulement lui souhaiter bonne chance, car s'il y parvient, il sera le premier homme depuis des siècles à accomplir cette tâche.
Pour l'Ukraine, tout accord de paix doit respecter sa souveraineté, sans troupes russes sur son sol. Certains Ukrainiens estiment qu'un effort de paix pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les États-Unis et l'Ukraine. Anna Opko est l'ancienne présidente de la Commission des affaires étrangères du Parlement ukrainien.
It's important to lift restrictions on deep strikes and provide Ukraine long-range missiles.
Il est important de lever les restrictions sur les frappes en profondeur et de fournir à l'Ukraine des missiles à longue portée, surtout après l'arrivée des troupes nord-coréennes qui soutiennent déjà l'agression russe contre nous. Et bien sûr, nous croyons en une approche plus pragmatique, notamment la coopération économique.
Les Ukrainiens sont partagés entre l'espoir d'une paix et le risque qu'un accord précipité mette en péril leur souveraineté.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mounezelo, à la mise en onde, Lionel Nanila Garima. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.